Alors pourquoi je voulais parler d'un esprit différent, d'une mentalité différente ce matin ? C'est parce que je me suis rendu compte en réalité que parfois on pouvait essayer des choses dans notre vie, de marcher et de tenter de faire des choses et on n'y arrive pas. Je pense que dans notre vie, on a tous un jour ou l'autre vécu une expérience d'échec. Ou suis-je le seul ? Et je pense que dans les situations d'échec que nous pouvons vivre ou subir, on a toujours, et je pense qu'on a toujours cherché l'excuse de notre échec sur la responsabilité qui incombait aux autres et pas la nôtre. Non ? On disait, si j'ai pas réussi, c'est parce que. Si j'ai raté mon code, c'est parce que. Le gars qui a choisi le questionnaire, c'était un sadique qui l'a mis le plus difficile. Si j'ai raté ma conduite au permis de conduire, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'examinateur. Si j'ai raté ceci ou cela dans ma vie, c'est toujours la faute des autres. Or, en réalité, je me suis rendu compte que mes échecs, en tout cas à moi, les miens, étaient souvent le fruit d'un esprit, d'une mentalité qui ne me permettait pas d'entrer dans la réussite et dans la victoire. Avez-vous remarqué cela ? Que notre manière d'aborder les situations va déterminer si je vais réussir ou pas. Et ce que j'ai envie de vous faire prendre conscience ce matin, c'est que vous avez, pas moi, moi je suis parfait, vous avez besoin. On coupera ça, non ? Non, on le laisse. Il y a des gens qui reconnaîtront ça. Je suis parfait en Christ. Ah, ouf, j'ai bien rattrapé. Mais que nous avons besoin de changer de mentalité. Que ce qu'il y a là a besoin d'être corrigé. Parce que si, je crois que je le disais hier après-midi à un ami, il y a des gens comme ça, ils arrivent devant un obstacle, ils manquent le but, si je puis dire, et que font-ils ? Ils tournent. Ça, tu peux le laisser. Puis, ils reviennent devant l'obstacle, ils réabordent la situation avec la même mentalité. Ils manquent, et que font-ils ? Et en fait, il y a des gens comme ça qui tournent en rond toute leur vie. Et je vous le dis, j'ai tourné longtemps, moi aussi, face à des circonstances. Et il y a des personnes qui passent leur temps à tourner en rond. Alors que si, à un moment donné, ils comprenaient qu'il suffisait de changer de mentalité, d'avoir un esprit différent pour aborder les situations, ils réussiraient. Vous avez un exemple parfait. Dans la Bible, c'est le passage du Jourdain. J'explique, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas l'histoire. Dieu a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte par l'intermédiaire de Moïse. Moïse était choisi pour amener ce peuple du point A, qui était l'esclavage, qui représente en réalité la puissance du péché, d'accord ? Et il devait normalement l'amener, c'était le but, jusqu'en terre promise, ce qui correspond à Israël aujourd'hui. Et donc, Dieu libère son peuple d'une manière puissante. Il ouvre la mer, il détruit les Égyptiens, il fait recouvrir la mer sur les Égyptiens. Enfin, il fait des choses incroyables, le Seigneur. Le Seigneur se révèle même d'une manière puissante parce qu'il conduit ce peuple jusqu'aux portes de ce pays-là. En étant conduit par la nuée, il va les nourrir d'une manière miraculeuse. Il va leur donner à boire d'une manière miraculeuse. Ce peuple va voir des miracles. Il va voir la gloire de Dieu se manifester. Et ils arrivent face à ce pays promis. Moïse dit, on va envoyer quelques espions pour voir un peu ce qu'il y a de l'autre côté. C'est sage. Et les espions reviennent. Et tous disent, sauf deux, mais tous disent, c'est exactement ce que Dieu nous a dit. Ce pays de la promesse, ce pays de l'accomplissement de la promesse de Dieu, il existe. C'est un pays vraiment où coule le lait ou le miel, à tel point qu'il retrouve même une grappe de raisin pour faire plusieurs tonneaux de pinard. Oui, oui, à l'époque, c'était déjà du vin. Et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Donc il y a une, vous voyez, il y a une grosse quantité de choses qui voient un pays où coule le lait et le miel. Il y a une promesse qui est là, qui est à portée de main. Ils ont juste à entrer. Mais il y a un hic. C'est que là-bas, il y a des gars comme moi. Des géants, costauds, musclés, des sacrés guerriers. J'ai les noms de ceux qui rigolent. Et ces gars-là, je sais pas, ça va les bloquer. Ils vont revenir. On a vu tout ce que Dieu m'a dit, mais ces géants nous empêcheront de posséder ces choses. Et à cause de l'incrédulité, et à cause de la mentalité qu'ils ont, ils vont louper le but. Ils vont tourner en rond pendant 40 ans. Toute cette génération qui a refusé d'y rentrer, sauf Caleb et Josué, vont mourir dans le désert. Parce que c'est une triste nouvelle, mais quand tu tournes en rond dans le même, et tu meurs avec ton tourne en rond. Tu finis, si je puis dire, comme le poulet qui tourne en rond et qui se fait cuire, et tu finis par être mangé. Ouais, c'est une façon humoristique de raconter les choses, mais c'est une réalité spirituelle. Je vous verrai bien en poulet rôti, tiens. Et puis, là, on se retrouve dans une scène identique. 40 ans plus tôt, donc, ils loupent le but, mais maintenant, on va voir qu'ils vont réussir. Et vous savez pourquoi ils vont réussir ? Parce que leur mentalité va changer. Parce que leur esprit sera différent. Parce que leur manière d'aborder les choses seront différentes. Et 40 années plus tôt, donc Dieu avait invité son peuple à passer du désert dans le pays de Canaan. Seulement, ils avaient refusé. Et là, ici, dans le livre de Josué, chapitre 3 et 4, nous voyons que le peuple va obéir et entrer en possession de ce que Dieu avait promis. Et vous savez, lorsque Dieu nous libère de l'Égypte, qui correspond à la puissance du péché, à ce qui nous sépare de la présence de Dieu et qui nous amène hors de ce pays, c'est pas pour que tu tournes en rond dans le désert. C'est pour t'amener et nous amener à posséder les promesses. Et là, vous voulez que je vous le dise où il est le pays de Canaan ? Il n'est pas sur une carte qui se situe dans ma Bible, il est là-dedans. C'est-à-dire que ça, c'est le pays promis. C'est-à-dire que là-dedans, je vois des choses qui me disent, il y a des promesses d'édification, des promesses de guérison, des promesses de relation avec le Père, des promesses de relation entre nous, des promesses où je peux dire, oui, j'ai été déçu dans ce monde, mais ici, avec Dieu, voilà, je peux posséder ces choses. Le pays promis, il est là. Ce sont toutes les promesses que Dieu a données dans sa parole. Et lorsque Dieu veut t'amène d'un point A, qui est l'Égypte, vers le point B, qui est le pays promis, c'est juste pour que tu puisses vivre pleinement tout ce que Dieu a promis. Et croyez-moi, là, on n'aura pas assez d'une vie pour vivre tout ce que Dieu nous a promis. Là, il y a là, si je puis dire, les richesses, les trésors divins que Dieu veut nous donner. Mais le problème, parce qu'il y en a un, c'est que beaucoup encore vivent dans le désert. Et qu'ils tournent en rond dans le désert. Et il y a même des secteurs de nos vies où nous avons un pied dans le désert et un pied dans le pays promis. Le contexte, donc, 40 ans plus tôt, Dieu avait invité son peuple à passer du désert dans le pays de Canaan. Ben, je vous ai dit, hop, il ne veut pas passer. Ah, ça y est. Josué se lève de bon matin. C'est un lève-tôt, Josué, comme moi. Et il part de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain. Donc là, vous vous apercevez en réalité que Josué arrive avec le peuple face au Jourdain, qui est la frontière, si je puis dire, entre le désert et les promesses. Il y a une frontière. Et pour parfois, vous savez, il y a des frontières quand tu vas en Belgique une fois, et que tu vas voir Job, le premier personnage belge de l'histoire de la Bible, ça je l'ai retenu. Il y a une frontière parfois qui est pas grande. Il y a une frontière qui est parfois une ligne. Mais c'est quand même assez extraordinaire. Parce que parfois, de passer une ligne, on n'y arrive pas. Et là, c'est juste un fleuve, une rivière. Je sais pas, moi je suis jamais allé en Israël, j'espère y aller un jour. Mais ce que je sais, c'est que j'ai vu des images du Jourdain. Le Jourdain, c'est quelque chose, mais c'est pas non plus... le Nil, quoi, ou l'Amazone, vous voyez? Et là, il y a comme un endroit géographique que Dieu veut amener son peuple à traverser. Et Dieu donne cet ordre. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, alors, c'est là où il y avait les tables de la loi, etc., portée par les sacrificateurs, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Donc, en gros, ils arrivent face au Jourdain. C'est Julie. C'est la fille d'Aurélie dans ces cas-là. Ouais. En fait, il est en train de dire, quand vous allez arriver face au Jourdain, voilà ce qui va se passer. Vous allez prendre l'arche, les sacrificateurs vont prendre l'arche, ils vont aller au milieu du Jourdain, et vous allez voir, au milieu du Jourdain, l'eau va s'arrêter. Il va y avoir un amoncellement d'eau d'un côté et de l'autre côté. En gros, ils n'ont même pas besoin de pont, ils ont juste besoin de leur foi pour y aller. Et donc, que font-ils? Ils avancent avec l'arche, et en effet, Dieu se montre glorieux, mais aussi, il vient montrer quelque chose, c'est que ce que Josué avait entendu de la part de Dieu s'accomplit. Il vient valider l'autorité de Josué, qui en avait grand besoin avant d'entrer là-bas, dans le pays de la conquête. Voilà. Et donc, que se passe-t-il? Ils se tiennent à distance, ils arrivent, l'arche s'arrête. Et là, que se passe-t-il? Le peuple peut avancer, il traverse à sec. Extraordinaire, non? Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Attends, l'homme est capable de faire des choses, mais pas ça. Et puis, le peuple traverse, mais Dieu va leur dire quelque chose d'important. On va y revenir après. Vous allez prendre 12 gars de chaque tribu d'Israël, et au milieu du Jourdain, chacun, à l'endroit où vous passez, prendra une grosse pierre qu'il va prendre sur son épaule et il va l'amener de l'autre côté du Jourdain. Et à l'endroit où vous allez aller, le lieu où vous allez coucher la nuit prochaine, je vais vous demander quelque chose. Et entendez bien ceci, c'est qu'ils vont prendre les 12 pierres. Ils vont pas les mettre chacun dans leur tribu, dans leur camp, mais ils vont rassembler les 12 pierres pour les poser au même endroit. Et Dieu dit, c'est un signe qui parlera à votre génération, mais aux générations futures. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un verra ce mont de pierre, il dira, c'est ici que Dieu a fait passer son peuple. Et à ceci, tous sauront que Dieu va chasser les démons qu'ils possédaient et qu'ils posséderont le pays. Alors une fois que les pierres sont passées de l'autre côté, le peuple passe tranquille, Émile. Et que se passe-t-il derrière? Il y a toute une armée, 40 000 hommes en armes qui passent derrière eux, qui ferment le chemin. Et une fois que tous sont passés, que font les sacrificateurs? Ils prennent l'arche. Et il l'amène de l'autre côté du Jourdain. Ainsi, par cet acte d'obéissance, ils vont passer d'un état d'errance vers un état de conquête. Et je crois que Dieu veut nous faire passer de cet état d'errance vers un état de conquête. Et je crois que le cœur du Père et dans la souffrance quand il voit ses enfants errer, passer leur temps à se balader dans le désert. Pourquoi ce peuple a-t-il réussi à passer alors qu'il a échoué 40 ans plus tôt? Je vous ai déjà donné la réponse, sauf si vous n'avez pas écouté. Leur esprit, leur mentalité avait changé. On va voir 3 points. Le premier, le peuple avait accepté de se soumettre à l'organisation, entendez bien ceci, et l'autorité établie. 40 ans plus tôt, ils ont remis en question l'autorité de Moïse. Face aux géants, à l'annonce des géants, parce que tous ne les avaient pas eus. C'est dingue d'ailleurs, hein, comme 8 personnes peuvent transmettre parfois démoraliser tout un peuple. Vous avez déjà remarqué ça? Ce matin, je me lève de très bonne heure, je mets ITélé, pour ne pas les citer, et j'avais le moral à zéro au bout de 10 minutes. Un gars derrière son écran est en train de me dire qu'il y avait le coronavirus, que on violait les filles dans le patinage artistique, que des mauvaises nouvelles. À même un moment donné, Marie se lève et elle me dit, je dis, chérie, éteins, j'en ai marre. Vous voyez que parfois, ce que je peux dire au sein de ma famille, au sein de mon travail, au sein d'une église, peut provoquer parfois de l'abandon, de la défaite. Et là, ce peuple-là, il change. Parce que 40 ans plus tôt, ils ont écouté la voix des espions. Là, maintenant, ils écoutent la voix divine, qui vient par l'intermédiaire de Josué. Entendons-nous, hein. Vous vous apercevez d'ailleurs que Dieu parle à travers un homme dans cette situation. Pas tout le peuple, mais un homme. Et il a fallu beaucoup de foi, parce que, clairement, eux, ils se sont souvenus quand même qu'il y avait quand même des géants encore de l'autre côté. D'accord? D'abord, ils ont accepté qu'un homme les dirige vers les victoires à venir. Et vous savez, si tu veux à un moment donné sortir de ton climat ou de ton environnement de errance, il faut à un moment donné que tu ailles chercher quelqu'un qui te fera passer de l'autre côté. Et je voudrais vraiment vous interpeller à ça, parce qu'il y a un geste symbolique que Dieu demande. C'est les 12 pierres qui sont mises ensemble. Les 12 pierres sont montées ensemble. Elles forment un mont ensemble, qui est le signe de la puissance de Dieu, mais qui est signe de l'unité du peuple. Et on s'aperçoit en réalité qu'on ne peut pas passer vers la liberté, vers la conquête, si on pense qu'on va y arriver seul. Donc, si tu es dans cette situation-là, sache, article numéro 1, j'ai besoin que quelqu'un m'aide. Article numéro 2. D'abord, ils ont accepté l'organisation et l'ordre divin. Le peuple sorti de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche et de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Exactement comme comme Josué avait ordonné, le peuple fait exactement ce qu'il demande. C'est extraordinaire. Et le peuple, le Seigneur ne voulait pas une organisation anarchique. Parce que autant, si je puis dire, lorsqu'ils sortent d'Égypte, je ne sais pas si vous vous souvenez, il est question qu'ils sortent à la hâte, rapidement. Donc quand ils sortent d'Égypte, ils sortent un peu tout et n'importe comment. Hein. C'est, permettez-moi l'expression, c'est le foutoir organisé. Et là, c'est tout à fait différent. Il y a un ordre bien précis. Et lorsque Dieu nous sauve, c'est toujours pour nous amener vers la discipline et la structure. Sache une chose, c'est que si tu veux sortir de ton climat de errance, de ton environnement de errance, il faudra à un moment donné que tu acceptes que Dieu structure ta vie. Il faudra que tu acceptes que Dieu ordonne les choses dans ta vie, que Dieu range les choses dans ta vie. Mais es-tu prêt à entendre? Es-tu prêt à changer? Parce que clairement, 40 ans plus tôt, ces hommes et ces femmes du peuple de Dieu, choisis par Dieu, ils avaient encore une mentalité d'Égyptien. La mentalité du royaume de Dieu, c'est d'accepter d'être repris, d'être corrigé, d'être redressé par le Seigneur. Donc vous voyez là qu'il y a une puissance pour un peuple qui se soumet à l'autorité divine. Parce que ce peuple qui se soumet, il arrête. Alors je sais bien, c'est pas lui qui le fait. Mais à cause de son obéissance, les eaux du Jourdain sont arrêtées. La deuxième chose pour sortir de notre et pour réussir maintenant, c'est que Dieu nous demande de passer de l'ancien au nouveau. Et vous savez, 40 ans plus tôt, ils sont dans le désert et quand ils reviennent et qu'on leur annonce qu'il y a des gars baraqués comme Bruno qui sont en Israël, la première chose qu'ils disent à Moïse, « Mais qu'est-ce que t'as fait, Moïse, de nous sortir d'Égypte ? On aurait mieux fait de mourir là-bas. » Face à la difficulté, ils se disent d'abord, « On préfère mourir. » Face à la difficulté, parce qu'il y a des gens comme ça, on est, vous savez, le pays européen où il y a le plus de pensées de suicide. Il paraît qu'il y a 5%, j'ai entendu ça cette semaine à la radio, il paraît qu'il y a 5% de Français qui ont au moins, à un moment donné, pensé à se suicider. Et encore, c'est ceux qui avouent l'avoir fait. Il y a des gens qui préfèrent mourir plutôt que d'affronter, parce que c'est trop lourd pour eux. Et là, j'ai beaucoup de compassion pour ces personnes. Mais là, il y a 40 ans, ils ont dit, on se révolte contre ça. On refuse d'entrer dans quelque chose de nouveau. Parce que on préfère l'ancien. Et si tu veux réussir à passer les étapes dans ta vie, tu dois accepter le nouveau. Et c'est quoi accepter le nouveau? C'est accepter quoi? Ben, des choses que tu ne maîtrises pas. Quand on va vers l'avenir, hein, comme dirait ma belle-mère, on voudrait être tout jeune et tout savoir, c'est ça? Enfin, c'est une expression comme ça. Non, tu ne sauras pas ce qui se passera dans l'avenir. La foi, c'est pas connaître tout ce qui se passera dans l'avenir. La foi, pour posséder, c'est d'accepter qu'à un moment donné, Dieu te montre les choses au fur et à mesure qu'elles vont avancer. Et si tu veux passer de l'autre côté, tu dois un minimum faire confiance à Dieu et lui confier ta vie. Nous ne pourrons pas posséder les promesses de Dieu si nous restons attachés à l'ancien, au passé. Il a fallu que Jéricho et les murailles tombent avant que ce peuple puisse entrer dans la conquête, posséder. D'accord? Ils vont posséder le Jourdain, passer le Jourdain. Jéricho va tomber. Jéricho, c'est là où il y a une grande forteresse. Cette forteresse va tomber. Et on va voir ça parfois. C'est quelque chose qui est là et qui a besoin de tomber. Et ce peuple-là va pouvoir enfin posséder. C'est pourquoi Paul écrira que nos raisonnements, nos pensées sont des forteresses qui doivent être renversées. C'est exactement l'image de Jéricho. Alors, comment savoir que mes forteresses ne sont pas celles de Dieu et qu'elles ont besoin d'être renversées? Parce que j'imagine la question que vous êtes en train de vous poser. Et j'ai la réponse. J'y ai réfléchi. Je me suis dit, en fait, la première des choses, je crois, c'est que ce peuple-là, pendant 40 ans, il s'est bien rendu compte que ses pensées n'étaient pas justes. Parce qu'il a eu besoin de plus de révélations. Il a eu besoin de voir que Dieu agissait. Ces 40 années de errance, elles ont quand même servi à quelque chose. Parce qu'ils ont été éduqués. Ils ont compris qui était Dieu. Si je peux dire partiellement, parce que malheureusement, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux comme nous. Et je pense que dans nos vies, il y a des forteresses qui doivent tomber. Dans la mienne. J'ai dit dans nos vies, peut-être pas vous, mais dans la mienne, il y a encore des forteresses qui doivent tomber. Malheureusement, beaucoup veulent posséder et ils n'acceptent pas de changer de mentalité. Beaucoup. On veut tout. On se dit, on lit la Bible. On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront en mon nom, etc., etc. Vous connaissez ce passage? On se dit, ok, et puis ça marche pas. On finit par se révolter par Dieu, on dit, mais qu'est-ce que tu m'as écrit là, j'arrive pas à le vivre, etc. Et souvent Dieu et le Saint-Esprit est en train de nous éclairer, il est en train de dire, d'abord, si tu changeais des petites choses dans ta vie, voire des grandes choses. En réalité, la première des choses que fait l'apôtre Pierre lorsqu'il prêche l'évangile le jour de la Pentecôte, il dit « changer de mentalité ». Et tu ne peux pas entrer dans le royaume si tu ne changes pas de mentalité. Tu ne peux pas posséder ce que Dieu veut te donner si tu ne changes pas ta manière de penser. Et la deuxième des choses, donc c'est dans la Bible que tu vois ça, mais entre nous, je me suis rendu compte quand même que les gens qui ne pensaient pas comme moi, ça me permettait quand même de changer pas mal de choses dans ma vie et changer ma façon de penser, non? Alors les hommes mariés le diront, ma femme m'a transformé parce que j'avais des idées bien arrêtées sur certaines choses et par ma relation, je vois un couple là béni, Regarde, ils s'embrassent et tout, voilà. Mais je sais en tout cas que ça... Vous savez, quand on parle entre frères et sœurs, dans la même famille, souvent, on veut travailler avec des gens qui pensent comme nous. Vous avez déjà remarqué ça? Moi, ça me va bien, hein. C'est confortable. Hein. Je bosse avec des gens qui pensent comme moi, qui veulent faire ce que je veux. Enfin, je trouve ça extraordinaire. J'ai jamais trouvé, hein, même au boulot. Hein. Il y a toujours des gens, des empêcheurs de tourner en rond, comme on dit. Hein. Des gens qui veulent faire tout le contraire de ce que tu as décidé. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a une richesse dans les relations qui peuvent et qui doivent exister entre nous. Et ce n'est pas pour rien que vous voyez dans le livre des Actes qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la fraction du pain et la communion fraternelle. Parce que c'est dans la communion que je pourrais avoir des pensées parfois qui sont contraires à la pensée du royaume, que je pourrais me laisser corriger par l'autre. Mais forcément, on n'aime pas ça parce qu'on n'aime pas se laisser reprendre par les autres. Et puis, le nouveau de Dieu, une nouvelle vie. Cette histoire nous parle de la nouvelle naissance en réalité. Vous savez que pour vivre, naître du nouveau, Jésus l'a dit. Celui qui croit en moi, celui qui croit au Fils de Dieu, il passe de la mort à la vie. Il passe de l'esclavage à la possession des promesses. La vie, ce n'est pas le désert. Oh, la vie, ce n'est pas le désert. La vie, c'est posséder ça. La vie, c'est posséder les promesses de Dieu. Ça, c'est la vie en abondance. Par le Saint-Esprit, bien sûr, mais ça, c'est la possession des promesses de Dieu. Et je crois que Jésus a dit, vous me dites si je me trompe, que celui qui croit en lui vivra, mais qu'il deviendra enfant de Dieu, qu'il possédera des choses en lui, qu'il naîtra de nouveau, qu'il aura une nouvelle vie. Et vous savez, je me mets à la place de ces hommes et de ces femmes qui ont vécu pendant 40 ans par le désert. Certes, ils ont mangé la manne, l'écaille, enfin, ils ont été bénis par Dieu. Mais Dieu voulait leur donner comme un pays qui leur permettrait d'être responsable de ce que Dieu voulait leur donner. Et si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, si tu crois que Jésus est mort sur la croix pour te donner la vie, tu peux vivre cette vie nouvelle. Cette histoire nous parle de la nouvelle naissance et le Jourdain peut représenter l'Esprit qui nous ouvre la voie pour entrer dans un voyage qui demandera trois choses. Mobilité. Si tu n'es pas mobile, tu n'y arriveras pas. Il faut être capable à un moment donné de bouger. Il faut être capable à un moment donné de lâcher prise, comme je disais tout à l'heure, de lâcher notre petite remorque et d'entrer dans quelque chose de nouveau. Et on doit être capable à un moment donné d'être suffisamment souple quand Dieu nous dit quelque chose, de dire « oui, je vais le faire » et pas dire « qu'est-ce qui t'a dit que tu... hein ?» De remettre en question tout ce que Dieu dit. Et en fait, ça nous demande beaucoup d'humilité. Parce que tout ça, c'est Dieu qui l'accomplit. Ce n'est pas moi qui ouvre le fleuve. C'est mon obéissance et ma foi qui ouvre le fleuve. Si quelqu'un est en Christ, écoutez bien ceci, il est une nouvelle créature et tu peux être, à partir de ce jour, une nouvelle créature. Tu peux passer soit de l'esclavage au désert, ou soit du désert à la terre promise. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est une réalité. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. C'est là la technologie du voyage, du salut qui est offert par Dieu. C'est exactement, et c'est aussi simple que ça. Il y a des technologies très complexes et très compliquées. Mais le salut, c'est très simple. Tu entends la voix de Dieu. Dieu te parle. Il se révèle à toi. Tu dis, OK, je serai suffisamment mobile, souple et humble pour te suivre, Seigneur. Et là, tu deviens une nouvelle créature. Tu passes là dans la réalité de la possession des promesses de Dieu pour ta vie. Et la manière d'entrer dans le royaume de Dieu va déterminer la qualité de la victoire qui nous est offerte. Si tu rentres avec une mentalité de l'autre côté d'esclave, tu ne posséderas pas. Parce que quand tu te retrouveras face à une circonstance où tu diras « prends », ta mentalité d'esclave te dira « ne prends pas ». Et tu finiras schizophrène. Je prends pas. Quand je dis schizophrène, j'entends bien ce que je veux dire. Dire que j'ai deux personnalités. Il y a des gens comme ça qui vivent en dents de scie. Qui vivent à la fois des fois des périodes de leur vie où ils sont dans la possession des promesses de Dieu et puis ils repassent de l'autre côté. Non, quand je passe. J'y vais et je prends les choses. Je peux chercher à vivre quelque chose de nouveau. Je peux chercher un nouveau job. Je peux chercher un nouvel endroit pour vivre. Il y a des gens qui veulent du nouveau tout le temps. Vous avez remarqué ça? Ils veulent tout le temps du nouveau. Ils ne se satisfont pas de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont. C'est bien en soi. Il faut toujours vouloir mieux pour nos vies, pour notre famille, etc. Néanmoins, si je ne cherche pas le nouveau de Dieu en priorité, tout ce que je cherche à faire de nouveau ne changera pas. Vous prenez une personne qui a des problèmes, vous lui dites, moi j'ai connu ça dans ma famille, j'avais un oncle, une tante qui avait des gros soucis financiers. Et quand il fait, ils ont tout remballé, ils ont pris femme, enfant, enfin, il a tout pris mon oncle, il est parti dans le sud de la France. Parce qu'il pensait que là-bas, l'avenir serait plus rose. Eh bien, tout ce qui s'est produit là-bas, c'était la même chose qui s'était passée dans le Nord. Parce que son cœur n'avait pas changé. Parce que sa mentalité n'avait pas changé. Il a reproduit ce qu'il était en ch'ti. Il a eu beau. Mes cousines ont l'accent du Midi maintenant. Il a eu beau à choper l'accent du Midi, mais les problèmes sont restés les mêmes. Ouais. Si je n'ai pas Jésus en moi, ce que je vivrai ne sera que l'ombre d'une véritable vie nouvelle. Et je vous invite vraiment à rechercher la vérité, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ah, pourquoi de tels signes? D'abord, l'eau se coupant en deux, alors que le peuple est en train de passer, est un signe qui devait leur donner la foi au-delà de cette expérience. Clairement, il est en train de dire, c'est à cause de ce que je fais, dit Dieu, que je vais chasser les nations. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils allaient dans une contrée, parce qu'on ne possède pas les choses toujours facilement, vous êtes d'accord avec moi. Des fois, il faut se battre. Des fois, il faut combattre dans la prière pour posséder les choses. Parfois, l'opposition sera puissante pour que pour nous empêcher de posséder. Mais ce peuple, à chaque fois qu'il est allé combattre, il s'est souvenu d'une chose. Quand je suis passé, les eaux se sont arrêtées. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que je sois là aujourd'hui. Même s'il y a de l'opposition. Comprenez? Ça doit nous encourager à ne pas baisser les bras lorsque la première difficulté arrive. C'est pourquoi il a demandé au peuple de placer ses pierres. Que ça soit un signe. Et les pierres, c'est toutes les paroles qu'on prend sur notre cœur, qu'on les grave sur notre cœur. C'est toutes les paroles de foi. Vous savez, tu poses des pierres quand tu prends la parole et que tu la serres contre ton cœur. Quand tu médites la parole, lorsque tu la prends, lorsque tu la saisis pour toi, là tu poses des pierres. Et à chaque fois que le doute vient, à chaque fois que l'opposition peut venir, tu te dis, j'ai mon tas de pierres et nul ne pourra l'enlever parce que Dieu est mon Père. Parce que j'ai l'autorité et le pouvoir pour posséder les choses. Conclusion. Cette saison est pour nous un départ. J'ai sur le cœur vraiment de vous dire, il y a des personnes parmi nous qui ont besoin de prendre un nouveau départ, de sortir de leur errance pour entrer vers quelque chose de nouveau. Des nouveaux objectifs, une nouvelle mentalité. Mais sommes-nous prêts à traverser en laissant Dieu diriger nos vies maintenant, en lui faisant confiance? Dieu appelle un peuple qui traverse. Pas un peuple qui tourne en haut, un peuple qui traverse. Qu'est-ce que tu es prêt à traverser aujourd'hui, à franchir? Quel est ton niveau de foi et ton niveau d'obéissance pour que tu puisses entrer dans les promesses de Dieu? Qu'est-ce qui doit être réglé dans ta vie? J'ai parlé tout à l'heure, je vous ai annoncé ce que le Seigneur a mis sur mon cœur au sujet de ces petites remorques qu'on avait derrière nous. Mais qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher prise pour entrer dans la possession des promesses? Est-ce qu'on est prêt à lâcher notre mentalité d'esclave? Je me souviens que dernièrement, on a entendu un message sur la victimisation. Ce peuple n'arrêtait pas de se plaindre. Je me mets à la place de Moïse. Il entendait que des plaintes. Mais je suis désolé, c'est pas en te plaignant. Ils vont me dire, il n'a pas beaucoup de compassion. C'est pas en se plaignant, mais c'est en entrant qu'on possède. Et le temps de pleurer est terminé. Parce que Dieu veut essuyer les larmes des yeux. Il veut étancher les cœurs qui saignent pour faire posséder son peuple toutes les promesses qu'il a données dans sa parole. C'est le temps d'un nouveau départ pour vous ou d'un départ tout court. C'est le temps d'un départ où Dieu veut t'amener vers quelque chose de plus grand et de plus glorieux. Et Dieu t'appelle à traverser, entrer vers les possessions de son héritage. Et c'est la marque du salut réussi et la concrétisation de la victoire de la croix que nous offre Jésus-Christ. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Eh oui. Est-ce que tu crois que tu fais partie de ce peuple qui traverse le Jourdain? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien sûr, il y aura de l'adversité. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de difficultés. Mais ensemble, parce que nous avons posé les pierres ensemble, nous vaincrons. Lui qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses aussi? Toutes choses avec lui. Et ça, c'est comme une prière que je voudrais adresser. Pas une prière pour que ce peuple change de mentalité, mais une prière qui déclare que nous avons un esprit différent à partir de ce matin. Une autre mentalité à partir de ce matin. Une mentalité de foi, d'obéissance, de persévérance. Nous ne lâcherons pas prise parce que nous voulons posséder les promesses divines. Puisque nous passons de l'autre côté, Père, puisque nous sommes passés de l'ancien au nouveau, tu produis en nous ce pouvoir, cette capacité de combattre et de vaincre. Pour posséder en voyant ta main agir pour nous. Nous possédons cette capacité. Ce peuple-là a la capacité. Même, j'espère en tout cas vous avoir communiqué que vous pouvez posséder les promesses de Dieu parce que vous possédez un esprit différent. À partir de ce matin, à partir de ce jour, notre vie ne sera plus pareille parce que Christ règnera dans nos cœurs, parce qu'il nous conduira par son esprit, parce qu'il arrêtera nos ennemis, parce qu'il combattra pour nous, parce qu'il nous fera remporter de grandes victoires. Cherche ce que tu veux à bâtir Dieu, ce que tu veux. Mais c'est en Christ d'abord que tu dois construire les choses. C'est là la puissance d'un esprit différent. C'est là la puissance d'un esprit différent. Qui d'entre nous veut passer le Jourdain ce matin? Alors je vous invite à vous lever et à prier. Père, ce matin, c'est un peuple nouveau, avec une mentalité nouvelle, avec un esprit différent. Peuple, ce peuple-là, Seigneur, ne veut plus avoir cette mentalité d'Égyptien. Je ne veux plus cela dans ma vie, Seigneur. Je veux posséder. Je veux posséder tes promesses et entrer dans tes promesses. Et ce matin, ce peuple-là est en train de traverser le Jourdain. Et chacun d'entre nous, nous voulons prendre une pierre. Et on veut se dire ensemble que nous allons posséder les choses, poser les fondements de notre foi ensemble. Pas individuellement, pas indépendamment des autres, mais liés ensemble. Et ce matin, c'est une communauté qui prie. Et les personnes qui veulent un nouveau départ avec le Seigneur. Je vais prier, si vous êtes d'accord avec cette prière, vous dites « Ok ». Je prie, je dis « Amen ». Père, je veux un nouveau départ avec toi. Ce matin, je reçois la personne de Jésus-Christ dans mon cœur. Vérité, lumière au milieu des ténèbres, venant en moi et m'éclairant sur le chemin vers une vie qui ne sera pas une vie d'errance, pas une vie où je vais tourner en rond, où les mêmes situations se reproduiront, mais vers une vie où je posséderai tout ce que tu dis dans ta parole. Et je demande, Jésus, que tu viennes dans ma vie. Je te demande, Père, que tu me donnes ton esprit, qu'il vienne en moi me donner la force, la souplesse, la sagesse, l'humilité, la mobilité pour entrer pleinement dans tes promesses. Je demande, Jésus, que tu viennes dans ma vie. Prends plus de place, Seigneur. Prends ma vie. Je te la donne, Seigneur. Et je te remercie à l'avance pour tout ce que tu vas me donner. Ce jour est un jour nouveau pour moi. Une nouvelle vie pour moi. Un nouveau départ pour moi. Amen.